Le journal vous est présenté par Clarence Rodriguez.
Bonsoir. Il était journaliste, cinéaste, écrivain, grand passeur de mémoire. Claude Glanzmann est décédé ce matin à Paris. Il avait 92 ans. Il laisse en héritage de nombreuses œuvres intellectuelles, dont Shoah, film monument sur l'extermination des Juifs par les nazis. En Israël, sa mort est considérée comme une perte énorme pour l'humanité, nous dira dans un instant Étienne Monin, notre correspondant à Jérusalem. À Nantes, garde à vue depuis la mi-journée pour le policier auteur du coup de feu mortel contre un jeune délinquant mardi soir à Breil. Ce décès a provoqué une flambée de violence urbaine dans les quartiers sensibles. Une marche blanche pacifique a été organisée cet après-midi par les proches de la victime. On rejoindra dans quelques minutes Sandrine Etoandeg à Nantes. Rien ne va plus dans les relations diplomatiques entre Londres et Moscou. La police britannique cherche à comprendre comment un couple hospitalisé à Amesbury a-t-il pu être lui aussi exposé au Novichok, ce même poison qui avait laissé en mars dernier un ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille dans un état critique. À Londres, les précisions d'Otsoufi. La mort de Claude Glanzmann ce matin à l'âge de 92 ans a également un impact en Israël. C'est une perte énorme pour l'humanité, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le pays a une dette de gratitude vis-à-vis de lui, estime de son côté le président de l'agence juive. Claude Glanzmann s'est intéressé assez tôt à Israël. Il a notamment signé plusieurs films, dont Shoah. C'était un fervent défenseur de l'État hébreu, comme l'explique Étienne Monin, notre correspondant à Jérusalem.
Claude Glanzmann a tourné deux films sur Israël, Pourquoi Israël en 1973 et Tsahal, l'armée en 1994. Pour lui, la création de l'État découle de la Shoah. Il a une fascination pour le juif nouveau qui émerge avec Israël, explique le politologue, auteur d'Israël et ses paradoxes, Denis Charbit.
Ce qui le fascinait dans Israël, c'est ce qu'on appelait un peu pompeusement la régénération du peuple juif, c'est-à-dire cette race qui est née de la catastrophe en quelque sorte, et sinon de la Shoah en tout cas de l'antisémitisme, et qui, entouré de pays ennemis, fait face à l'adversité, cette capacité d'inventivité, cette énergie, ce dynamisme, ce pragmatisme pour la survie. Et c'est ça qui l'a fasciné dans cette capacité, on dira aujourd'hui, de résilience, de voir une société ne pas s'éterniser sur les douleurs et les souffrances du peuple juif, et au contraire, de voir une société en action, une société en plein dynamisme.
Et cette fascination alimente certaines critiques. Dans son film sur l'armée, Claude Glanzmann est accusé d'être trop conciliant et d'avoir contourné la réalité de l'occupation.
Étienne Monin à Jérusalem. Le policier qui a tué un jeune homme mardi soir à Nantes est en garde à vue depuis la mi-journée. Édouard Philippe, sur place ce matin, a condamné les actes contre les forces de l'ordre et les destructions. Le Premier ministre a promis la plus grande transparence sur les circonstances de la mort du jeune homme de 22 ans. 11 jeunes sont également en garde à vue, interpellés hier soir pendant les nouvelles violences dans le quartier du Breil. Une marche blanche a été organisée à l'appel des proches de la victime. Vous y étiez, Sandrine Etoandeg.
Oui, effectivement, cette marche blanche qui a démarré et qui s'est terminée devant le muret où la voiture de la victime s'est encastrée mardi soir. On y voit des bougies, des fleurs, certains bouquets amenés par de nombreux jeunes à la mine grave avec ce message « Le loup, on t'aime le loup ». C'était le surnom d'Aboubacar. Il n'avait que 22 ans, répètent les habitants venus par solidarité avec sa famille en deuil.
L'armée, il y aurait eu légitime défense, mais là non. Et tiré dans le cou, excusez-moi, mais il avait aucune chance de s'en sortir. Donc il n'y a pas de légitime défense. C'est un meurtre, tout simplement. Une bavure.
La nouvelle de la garde à vue du CRS, vous en avez parlé, qui a tiré sur lui, ça va dans le bon sens, disent les habitants, mais il reste très prudent.
J'ai pas compris où est-ce qu'il a fait sa formation, celui qui a tiré. Il aurait dû tirer directement sur les roues. Il y a des photos qui passent, il y a des vidéos qui sont passées, qu'il y a des trucs que c'est pas vrai. Il faut qu'ils arrêtent. C'est pour ça qu'ils sont énervés, nos jeunes. Il faut les comprendre.
Et après deux nuits de violence, beaucoup espèrent que la tension va retomber, que les débordements vont cesser. Ils attendent beaucoup de l'enquête en cours.
Si vous habitez à Nantes, sachez que la circulation des transports en commun dans l'agglomération nantaise est interrompue depuis 20h30 ce soir jusqu'à demain matin. Initialement prévu pour la semaine prochaine, voilà que le gouvernement reporte la présentation du plan pauvreté à la rentrée. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, s'est justifiée ce matin en invoquant un agenda déjà chargé avec la Coupe du Monde de football. Un argument qui a du mal à passer du côté des associations de lutte contre la pauvreté, d'autant qu'elles ont dû travailler dans l'urgence pour formuler des propositions avant le début de l'été. C'est en tout cas ce qu'indique Florent Guéguin, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, fédération puissante qui regroupe plus de 800 associations de lutte contre la pauvreté. Il est interrogé par Boris Loumagne.
Nous, on nous a demandé de travailler très vite avec les services de l'État pour qu'il y ait des propositions qui sortent en juin ou en juillet, parce qu'il y a déjà eu un premier report, sachant que certaines des propositions visaient la rentrée scolaire, la prise en charge des enfants en difficulté, par exemple la question des petits déjeuners à l'école, notamment dans les établissements scolaires qui sont dans les quartiers en difficulté, la question de l'accès aux modes de garde pour les familles pauvres et pour les enfants pauvres, bref. Beaucoup de sujets qui concernent aussi la rentrée scolaire, ce qui crée aussi l'inquiétude et l'insatisfaction des associations de voir ce report. Parce que, évidemment, si les mesures ne sont annoncées qu'en septembre, ça veut dire qu'on perd plusieurs mois et j'espère que nous n'allons pas perdre une année. Je rappelle qu'il y a 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On ne peut plus attendre et on ne peut pas accepter que pour les plus aisés, les mesures soient prises tout de suite. Ça a été le cas dès le début du quinquennat sur l'ISF, sur la fiscalité de l'épargne, par exemple, mais que pour les pauvres, il faille encore devoir attendre.
C'est une histoire qui aurait pu inspirer la célèbre romancière anglaise Agatha Christie. Au Royaume-Uni, après l'intoxication de deux personnes au Novichok, à Amesbury, le gouvernement hausse le ton et demande à la Russie de s'expliquer. En mars dernier, l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille avaient été victimes d'une tentative d'empoisonnement avec le même agent énervant et le gouvernement britannique avait conclu à une implication du Kremlin. Mais comme en mars, Moscou nie et accuse Londres en retour. Les précisions d'Otsoufi.
Même agent neurotoxique, même région, l'histoire se répète et la crise diplomatique entre Londres et Moscou s'aggrave. Comme en mars dernier, lors de la tentative d'empoisonnement de Sergueï et Yulia Skripal, le gouvernement britannique exige des explications de la part de la Russie, sur un ton encore plus ferme qu'il y a 4 mois. Le ministre de l'Intérieur britannique, Sajid Javid, dénonce la désinformation du Kremlin.
Ce sont les actions du gouvernement russe qui continuent de porter atteinte à notre sécurité et à celle de la communauté internationale. Il est totalement inacceptable que notre population soit une cible délibérée ou accidentelle, ou que l'on déverse du poison dans nos rues, nos parcs, nos villes.
La Russie dément toujours une quelconque implication dans l'affaire Skripal ou dans cette nouvelle contamination au Novichok. Elle a sommé le gouvernement britannique de cesser ses intrigues et a appelé les forces de l'ordre à ne pas céder, je cite, « au sale jeu politique ». En mars, Londres comme Moscou avaient pris des sanctions, expulsant des diplomates de leur territoire. L'escalade a donc repris et pourrait conduire à davantage de mesures de représailles, le tout en pleine Coupe du Monde en Russie et à moins de 48 heures du match de l'Angleterre.
Otsoufi, notre correspondante à Londres. Peut-être une porte de sortie dans le conflit commercial qui menace les États-Unis et l'Europe. Donald Trump agite en effet la menace d'une augmentation de 20% des droits de douane sur les importations de voitures européennes. Mais face aux répercussions d'une telle mesure et surtout aux contre-mesures envisagées par l'Union européenne, Donald Trump fait une proposition: 0% de droits de douane sur les importations et les exportations. L'Allemagne, principale concernée, pourrait accepter la main tendue. Correspondance à Berlin de David Philippot.
L'idée a été lancée par l'ambassadeur américain en Allemagne. Richard Grenell a proposé aux patrons de Mercedes, BMW et Volkswagen de faire une croix sur les taxes. Ils sont plutôt pour, a priori, mais ils ont aussi fait remarquer que la décision n'était pas de leur ressort, mais de celui d'Angela Merkel. La chancelière se dit plutôt favorable à l'idée, mais à deux conditions. D'abord qu'il y ait un accord européen. Et deuxième condition, qui respecte sa vision multilatéraliste des échanges.
Nous ne pourrions pas seulement l'appliquer avec les États-Unis d'Amérique, mais nous devrions le mettre en œuvre avec tous les autres pays du monde avec lesquels nous commercialisons des automobiles, parce que sinon ce ne serait pas conforme aux règles de l'OMC.
Pas sûr que le président de l'Amérique d'abord accepte le deal, mais les constructeurs allemands ont également agité le bâton. Ils ont averti qu'un relèvement des droits de douane freinerait leurs investissements aux États-Unis et mettrait donc en danger leurs 120 000 emplois sur le sol américain.
Avant de se quitter, un mot du temps. Demain, il fera beau dans le sud avec des températures allant jusqu'à 30 degrés, y compris en Corse, 29 degrés sur la plage du Caladisol à Ajaccio, 27 au maximum pour le nord de la France. De belles éclaircies s'installeront de la Bretagne aux Hauts-de-France et jusqu'en Champagne-Ardenne et Lorraine. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Caroline Beneteau. Belle fin de soirée à tous.